La semaine de l'art.
Le magazine radio de la Tribune de l'Art.
Bonjour et bienvenue dans cette 35e émission de la Semaine de l'Art avec, pour la première fois, un invité politique, M. François de Mazières, député-maire de Versailles, non apparenté, apparenté UMP, mais non inscrit.
Voilà. Tout à fait, c'est voilà. Ça.
Donc avec lui, nous allons parler d'un certain nombre de sujets, beaucoup de sujets avec lesquels je pense nous sommes à peu près d'accord, d'autres sujets sur lesquels nous le sommes moins, donc davantage que pour les précédentes émissions, il y aura un petit peu de débat. Voilà. Monsieur Mazières, est-ce que, alors je vais d'abord vous appeler monsieur le député, puisque vous allez d'abord intervenir en tant que député. Pouvez-vous nous dire un petit peu rapidement votre parcours? Alors si j'ai invité François Mazières, c'est non seulement parce qu'il y a des questions patrimoniales à Versailles qui se posent, également à l'Assemblée nationale, mais aussi parce qu'il a un passé dans le patrimoine. Il a été notamment président de la Cité de l'Architecture. Donc dites-nous un petit peu comment vous êtes arrivé, comment vous êtes intéressé au patrimoine, et comment, quel est votre parcours avant de devenir député-maire de Versailles. Et en particulier, quand vous étiez président de la Cité de l'Architecture, vous avez démissionné parce que vous étiez devenu député.
Exactement. Ben, mon parcours, si vous voulez, a souvent eu des liens forts avec la politique culturelle. À l'origine, en sortant de l'école d'administration, en fait, j'avais choisi le corps préfectoral, un peu tradition familiale, puisque mon père était aussi dans ce métier. Et puis, toujours une passion pour la culture. J'ai un frère qui est peintre, j'ai vécu dans un milieu passionné par ces questions. Et moi-même, j'avais fait du de théâtre. C'était pour ça d'ailleurs que j'ai créé il y a maintenant 20 ans un festival de théâtre à Versailles. Le patrimoine, c'est venu par la suite, si vous voulez. C'est parce que j'ai eu la chance de devenir adjoint à la culture à Versailles en 1995. Et puis, à cette époque-là, ensuite, j'étais à l'inspection des finances et j'ai souhaité vraiment poursuivre ma carrière dans le domaine culturel. Donc, j'ai pu devenir directeur général de la Fondation du patrimoine. Ensuite, j'étais chez le cabinet du Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, où je m'occupais des questions culturelles et de communication. Et après, effectivement, j'ai eu cette grande chance de pouvoir ouvrir la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, qui est une aventure extraordinaire, très difficile, mais merveilleuse, parce qu'ouvrir un établissement public culturel, c'est rare, et on a eu la chance de pouvoir construire ce projet. Et puis c'était un musée merveilleux, il faut dire aussi. C'est l'ancien musée des monuments français, il est assez magique. Et j'en garde un très très bon souvenir. Voilà, donc toujours cette passion pour les questions culturelles que j'ai eu la chance de pouvoir vivre dans ma carrière.
Alors sur la Cité de l'Architecture, nous pourrions en parler, ça pourrait faire une émission à elle entière. Ce que j'ai regretté en deux mots, la Cité de l'Architecture telle qu'elle a réouvert, alors je ne sais pas quel était votre rôle là-dedans, mais c'est une... il manque beaucoup de choses. Il manque le 17e, le 18e, le 19e. Et ça, c'est un vrai problème. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez regretté? Comment est-ce qu'on aurait pu... Il y a beaucoup de choses en réserve, en fait.
Oui, bien sûr. Vous avez tout à fait raison. C'est un des problèmes majeurs, d'ailleurs. On ne peut pas parler de l'histoire de l'architecture en oubliant cette période. Surtout, je dirais, quand on a, comme moi, été, quand on est maire de Versailles, vous imaginez, on a l'impression qu'il y a un vide là, énorme. C'est une période d'architecture fabuleuse. Mais quand je suis arrivé, si vous voulez, c'était justement un moment très difficile parce que le projet était complètement arrêté. C'était la querelle des anciens et des modernes, c'est-à-dire ceux qui défendaient plutôt l'aspect architecture contemporaine avec l'Institut français d'architecture et puis ceux qui étaient issus de la tradition patrimoniale autour du musée des monuments français. Et c'était véritablement une guerre interne, d'ailleurs, ce qui était très dommageable au projet. Et je suis arrivé donc dans cette situation où finalement l'idée c'était d'arriver à apaiser ces deux courants qui sont constitutifs de la cité. Je crois qu'on a réussi au fur et à mesure, des mois et puis un équilibre s'est instauré. Mais déjà quand j'étais là, eh bien toute la partie de 17e avait été abandonnée, 17e, 18e avait été abandonnée, mis dans des réserves. et tout ça pour y réaliser la galerie moderne et contemporaine, qui était cette partie qui présente l'histoire de l'architecture depuis, en gros, la révolution industrielle jusqu'à nos jours. On a d'ailleurs essayé à l'époque, si vous voulez, puisque cette galerie devait être complètement opaque, et on a vraiment fait, je crois, le sauvetage de ce bâtiment de Carlu. Vous imaginez que le projet que j'ai découvert, c'était la galerie Carlu coupée en deux par un immense escalier. Alors, la beauté de ce bâtiment, c'est justement cette immense courbe de plus de 100 mètres qui est extraordinaire. Et donc là, je me suis vraiment battu, si vous voulez, pour qu'on arrive à garder cet espace absolument prodigieux qui fait toute la beauté de ce bâtiment. On a réussi, on a mis l'escalier sur le côté tel qu'il est aujourd'hui. Et au deuxième étage, celui où il y a la galerie donc moderne et contemporaine, il était prévu de totalement l'occulter sur Paris, ce qui est une aberration là aussi. Parce que ce qui est beau dans cet espace, c'est cette vision sur Paris, ce dialogue entre l'architecture à l'intérieur, parce que c'est un musée consacré à l'architecture, et la vue sur Paris. Donc là encore, si vous voulez, on a réussi à convaincre nos tutelles qu'il fallait reprendre ce projet, mais par contre, tous les moulages 10e, 18e qui étaient là, et moi j'étais, quand je dirigeais la Fondation du patrimoine, aux côtés du président de Royer, j'avais la chance d'être dans ces locaux incroyables, je pouvais me balader justement dans ces collections que je connaissais très bien, et particulièrement d'ailleurs à cet étage du 10e, 18e. Voilà, donc oui, moi aussi j'ai un peu un regret là.
Et donc oui, j'espère que ça sera, en tout cas, ça pourra être corrigé. Je ne pense pas qu'on en prenne le chemin actuellement.
Non.
Voilà. Donc, maintenant, parlons, je pense, de votre actualité. Mm-hmm. On a lu récemment dans la presse, vous m'aviez informé, votre proposition de loi pour instaurer un tirage du loto qui soit destiné, dont les gains soient destinés au patrimoine. Alors, pouvez-vous en dire plus? C'est quelque chose qu'on connaît éventuellement à l'étranger, hein, en Angleterre par exemple, de manière peut-être plus institutionnalisée. Donc là, ce serait un tirage, c'est cela? Et où en est ce projet, ou cette proposition? Est-ce que vous pensez qu'elle va être adoptée?
Alors écoutez, pour moi, c'est une vieille marotte, parce que quand j'étais donc à la Fondation du patrimoine, donc on est en l'an 2000, à cette époque, si vous voulez, la question était de savoir comment trouver un lien entre les différentes associations du patrimoine, ce qui est très important. Parce que ces associations sont extraordinaires, avec des gens passionnés, mais c'est vrai que parfois, elles travaillent chacun dans leur secteur et de façon très autonome. Et la Fondation du patrimoine est arrivée dans cet univers, et au fond, l'idée, c'était d'essayer de trouver un lien commun, un discours commun. Et donc, j'avais proposé à Édouard de Royer de réunir les présidents d'associations. C'est de là qu'est né d'ailleurs le G8, enfin la réunion des présidents des grandes associations du patrimoine, sur la thématique de créer un loto du patrimoine, comme cela existe effectivement en Angleterre ou en Allemagne, où vous avez un abondement important des crédits publics pour la restauration du patrimoine qui vient du loto. Et donc, c'est parti de là. À l'époque, si vous voulez, on avait fait cette démarche et on n'avait pas eu gain de cause. Quand j'étais quelques années plus tard, donc à côté du Premier ministre à Matignon, j'ai essayé à nouveau de relancer le projet après la loi sur le mécénat, qui avait été la grande œuvre du ministre Ayagon. Mais c'est vrai que moi, en tant que coordinateur à Matignon, j'avais aussi beaucoup travaillé sur ce sujet. Après, il y avait deux questions à résoudre, qui étaient l'enseignement culturel, notamment l'enseignement musical, et toute ce politique de décentralisation culturelle qui a complètement été abandonnée, qui est à mon avis une erreur gravissime, ce n'est quand même pas revenu, parce qu'aujourd'hui, plus personne ne s'occupe de ça, si ce n'est des villes, et on n'a aucune obligation. Bon, mais ça, on pourrait en parler, c'est un sujet très important, et je pense que les ministres de culture successifs feraient bien de s'y intéresser, parce que c'est la base, finalement, de la formation culturelle. Et puis, vous aviez l'autre sujet que j'avais essayé de vendre à mon ministre, à mon premier ministre, qui avait été d'ailleurs très intéressant. On a failli le passer, hein, à l'époque, sous forme d'un tirage spécial du loto. Pourquoi? Parce qu'évidemment, le loto, c'est aujourd'hui, vous savez, et en partie, une partie des recettes du loto va au financement du sport. Et donc, Finalement, j'ai été dit, en Angleterre, le loto, il finance aussi bien le patrimoine que les causes humanitaires, que le sport. Pourquoi pas faire la même mécanique en France ? Mais immédiatement, Bercy s'était arc-bouté contre, d'autant qu'on venait de vendre, entre guillemets, la réforme très importante sur le plan fiscal du mécénat. Et là, la résistance était très forte. Et donc, j'avais à ce moment-là émis l'idée que ce soit un tirage spécial du loto, parce que l'argument qu'on pouvait employer, c'est dire on ne va pas finalement prendre de l'argent au sport ou au budget de l'État, parce qu'on va créer finalement autour d'un tirage spécial pour les journées du patrimoine un engouement nouveau. Et cet engouement nouveau va permettre d'aller chercher des recettes qui, de toute façon, ne viendraient pas au loto, parce que les gens ne joueraient pas s'il n'y avait pas cet argument du patrimoine. Et voilà, c'était essayer de vaincre la réticence du ministère des Finances en disant « on vous prend rien puisque on va ouvrir une nouvelle possibilité de recette, et cette nouvelle possibilité de recette, on va l'affecter au patrimoine ». Voilà, alors à l'époque, ça a failli passer, je me souviens, ça s'est joué à très peu de choses, et puis bon, ça ne s'est pas fait. Et donc, devenu parlementaire, cette année, au moment, si vous voulez, de l'année présentation du budget, en séance publique, je dois dire, j'ai proposé cette solution en me disant que l'année dernière, le budget sur les monuments a été fortement amputé. La baisse entre le budget 2012 et 2015 est tout de même très significative. Il y a une baisse, on passe de 860 millions d'euros à 750. Bon, on oublie de le dire tout de même. Et je dis à la ministre, voilà, vous avez peut-être un moyen, une nouvelle ouverture qui serait de réfléchir à ce tirage spécial du loto. Et je sais que vous allez avoir la résistance du ministère des Finances, mais utiliser cet argumentaire consiste à dire on ne prend à personne puisqu'on crée un nouveau public qui serait intéressé par ce tirage, manifestant ainsi son adhésion aux problèmes patrimoniaux. Voilà, alors la ministre a hésité sur le moment parce que c'était pas prévu, mais c'était comme ça, je pense qu'il fallait le faire. Et le président Bloch, le président de la commission culture, enseignement et sport, a dit c'est une idée intéressante. Et donc voilà, l'amendement a été adopté, ce qui est très rare, je veux dire. Les amendements de l'opposition, ce côté frustrant d'être dans l'opposition, sont rarement adoptés. Mais comme là, il y avait le soutien du président de la commission culture, l'amendement qui consiste à faire une étude qui sera rendu avant le mois de mars 2015 pour savoir si on fait un tirage spécial du loto. Alors, c'est le moment où tous les amoureux du patrimoine doivent se mobiliser pour dire voilà, c'est intéressant de lancer au moins un titre expérimental. Et puis, dernier argument, c'est que j'ai proposé que ça soit branché sur la Caisse des monuments historiques. Alors, un peu par facilité technique budgétaire, parce que le monument historique, c'est une institution bien connue, donc, et surtout parce que, et avait été introduit du temps de Christine Albanel, la première tentative d'utilisation du loto avec un tuyautage, on est là vraiment la technique budgétaire, des recettes du loto vers la Caisse des Monuments Historiques.
Qui est devenu le Centre des Monuments Nationaux.
Qui est devenu le Centre des Monuments Historiques. Nationaux. Vous voyez, je suis en retard d'une guerre. Et donc, ce tuyautage porté sur 8 millions d'euros, et il a été supprimé dans la dernière
loi. C'est pas plus mal. Est-ce qu'il y a des monuments, le Centre des Monuments Nationaux a beaucoup de monuments dont il doit s'occuper, mais il est vrai que le manque d'argent, c'est partout. Est-ce qu'il faut vraiment le flécher de cette manière-là ou pas? Donc finalement, ça a été supprimé. Je pense que Philippe Bellaval dira oui, fléchons-le. Le président du Centre des Monuments Nationaux dira fléchons-le vers nous, mais peut-être qu'il faut se poser la question de là où il sera le mieux employé.
Oui. Vous avez raison. J'ai utilisé là, si vous voulez, presque une technique budgétaire. Mais au fond, ce qui est intéressant dans un rapport, c'est que justement, il va étudier la meilleure affectation possible. Ça lance un débat. Je pense que c'est intéressant que le monde du patrimoine se mobilise parce que effectivement cette logique du loto est vraiment intéressante. C'est populaire.
C'est effectivement une très bonne chose et on est tout à fait pour. Ce qu'il faut, c'est que ça, si ça vient remplacer un désengagement de l'État, ça, finalement, ça ne sert pas à grand chose quelque part. Parce
bien
que
sûr.
C'est une volonté de l'État qui doit laisser suffisamment d'argent pour le patrimoine et tout ce qui vient en plus, le mécénat, le loto, etc., devra être justement en plus. Donc il faut se méfier peut-être de cela. Hein. J'espère que vous y veillerez. Un autre sujet, alors qu'il n'est plus d'actualité, mais dont on a l'impression qu'il va être d'actualité chaque année, et sur lequel je sais que vous avez une opinion qui est proche de la nôtre, qui est la même que la nôtre, c'est l'ISF sur les œuvres d'art. Comment un sujet sur lequel on a débattu, il y a eu des rapports parlementaires qui ont dit que c'était une ânerie. On a voté plusieurs fois au Parlement, c'est des âneries. Bon, souvent parce que le gouvernement a dit à l'Assemblée nationale, on ne peut pas faire ça. Donc à chaque fois, ça revient, et bizarrement, ça revient à gauche, ça revient à droite. Comment est-ce que vous pouvez faire comprendre à vos confrères, à vos collègues, que c'est une ânerie, justement, une grave ânerie qui pourrait être très grave, à la fois pour le patrimoine et pour l'économie française? Pourquoi ce genre de choses revient sans arrêt?
Parce que, si vous voulez, dans une période budgétaire difficile, tout le monde est à la recherche d'économie. Alors, vous savez, la Cour des comptes, notamment, est obsédée par les niches fiscales. Il se trouve qu'à un moment, moi, j'étais à l'inspection des finances, on m'avait demandé de suivre le rapport annuel de la Cour des comptes sur les questions fiscales. Et ça s'appelle le Conseil des impôts. Donc j'étais rapporteur. Et donc je peux témoigner de ça, si vous voulez. L'objectif numéro un, c'est de supprimer ces niches qui existent. Et là, on est tout à fait dans cette logique, c'est-à-dire que, on se dit, certains utilisent les œuvres d'art pour finalement se soustraire à l'impôt. C'est ça vraiment, j'essaie de comprendre.
Oui, hein, parce que tu as des arguments, bien sûr.
Et vous avez des gens, des collègues très intellectuellement honnêtes, je peux leur dire, mais c'est complètement idiot, parce qu'on a un patrimoine exceptionnel, on a déjà du mal à le garder en France, vous allez faire fuir notre patrimoine. Ce qu'on souvent nous répond, et alors là, c'est vrai que ça pose tout de même une interrogation, c'est les œuvres d'art contemporaines, parce que qui répondent à un marché où il n'y a pas de règles réelles, en fait. Hein. Et ça, il faut dire...
Mais en même temps, les œuvres d'art contemporaines, il faut bien que les artistes vivent. Et donc, si vous voulez les faire vivre, il ne faut pas qu'on brime. Déjà, c'est difficile pour eux de vendre. Donc, je pense que si on veut distinguer... Il y en a d'autres qui vont dire, ça ne doit pas s'appliquer aux œuvres d'art contemporaines pour faire vivre les artistes, mais on peut le faire pour les œuvres d'art anciennes. Donc, si vous voulez, si on commence à faire cette dichotomie...
Non.
Voilà, on est d'accord.
Je suis totalement d'accord sur ça. Totalement d'accord, mais je vous dis pourquoi on en arrive à ça, parce que dans l'art contemporain, et je vous dis, j'ai un frère qui est peintre, qui en vit, et donc je suis très sensible à ces questions-là, parce que je suis aussi passionné par ça, donc je partage votre vie, mais ce qui me frappe, c'est que vous avez tout de même certains artistes internationaux qui ne répondent plus à aucune logique, si ce n'est une pure logique économique assez qui n'est pas très saine par rapport à ce qu'est la vraie passion culturelle.
En tout cas, vous êtes bien d'accord que même si certains utilisaient l'art pour échapper à une partie de l'impôt sur la fortune, j'allais dire tant mieux, parce que ça veut dire que ça fait rentrer en France, ça fait venir garder en France des œuvres d'art qui, un jour ou l'autre, on le sait, finiront dans les musées, parce que c'est ce qui se passe pour les œuvres d'art qui sont conservées dans un pays. Deuxièmement, il y a effectivement quelque chose qui pouvait aller dans la direction de ceux qui veulent mettre les œuvres d'art. Et heureusement, c'est en train de s'écrouler. C'est quand même l'histoire d'Aristophile. C'est pas vraiment des œuvres d'art. Mais on savait bien qu'il y avait quand même un petit souci. On pouvait pas continuer longtemps comme ça. Et surtout, avec ce scandale, moi, je trouve que c'était vraiment un scandale, qui était que quelqu'un qui ne possédait pas d'œuvres d'art ou ne possédait pas de manuscrits, qui mettait juste des parts dans un manuscrit, donc c'était pas un amateur, c'était pas des gens qui aimaient ça, puisqu'ils ne les avaient pas chez eux. Ils pouvaient le déduire de l'impôt sur la fortune. Et ça, c'était choquant. Mais on voit bien que ça ne peut pas fonctionner, puisque c'est en train, en tout cas, qu'il y a une enquête actuellement, et que ça va certainement s'écrouler. Donc, voilà. Donc, c'était juste sur l'ISF. Je pense que, espérons en tout cas, heureusement, enfin, il y a des députés qui pensent comme vous, et puis le gouvernement, à chaque fois, de gauche ou de droite d'ailleurs, a toujours eu le bon sens de dire non.
Oui,
mais
exactement.
Le problème, c'est qu'à chaque fois que cette discussion revient à l'Assemblée nationale, ça fait partir des œuvres. Moi, je connais des collections qui partent ou des gens qui. Parce qu'ils ont peur que ça arrive un jour et on craint tous que ça arrive un jour.
Oui, ce serait une grave erreur, surtout par rapport
alors,
à notre histoire.
Actuellement, alors, quelque chose d'actualité qui est peu relayé par les médias, malheureusement, c'est quelque chose dont nous avons déjà parlé, c'est la future loi sur la transition énergétique. Alors, tout le monde est pour l'écologie, tout le monde est pour le fait qu'on dépense moins d'énergie, qu'on pollue moins. Ça, il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais il y a dans cette loi. Un article ou deux articles qui prévoit qu'on ne pourra pas interdire l'utilisation pour des bâtiments en dehors des bâtiments classés et inscrits, mais partout ailleurs. C'est-à-dire que tous les bâtiments à proximité des monuments classés ou inscrits, tous les bâtiments qui seront dans des zones sauvegardées, partout, une ferme isolée du XVIe siècle qui ne sera pas protégée, comme la plupart ne sont pas protégées, on ne pourra pas interdire d'utiliser des matériaux d'isolation par l'extérieur, c'est-à-dire en fait qui se plaquent sur la façade et sur les toits. En plus, il y a même des avantages fiscaux à faire cela, ce qui est extrêmement grave, parce que si cette loi passe, demain c'est tout le paysage français qui va être bousillé. En plus, de manière totalement ridicule, parce que lorsqu'on fait ça sur des bâtiments anciens, les bâtiments pourris ensuite de l'intérieur. En plus, les bâtiments anciens sont ceux qui sont les mieux isolés. Donc il y a un ça a été voté à l'Assemblée nationale, nous y reviendrons. Au Sénat, actuellement, ça va être voté bientôt. Il y a un amendement qui a été travaillé par les associations pour proposer simplement que cet article, d'abord, soit exclu tout ce qui est protection, tous les immeubles protégés ou en zone de protection. Et deuxièmement, que ça ne s'applique qu'aux immeubles construits après 1948, ce qui fait déjà beaucoup, beaucoup d'immeubles. Ma première question, c'est que pensez-vous de cet article ? Est-ce que vous partagez notre inquiétude ? Deuxième question, comment l'Assemblée nationale, parce que je pense que même vous n'aviez pas forcément repéré ça, et vous votez beaucoup de lois, avec des lois des fois compliquées, finalement on en arrive à avoir des votes comme ça, on ne se rend pas compte de ce qu'on vote. C'est un peu ennuyeux des fois, je pense, pour les parlementaires. Et troisièmement, est-ce que vous allez agir au niveau de l'Assemblée nationale pour que quand ça reviendra du Sénat, soit le Sénat aura fait passer l'amendement, pardon, et ensuite, excusez-moi, soit l'amendement aura été voté par le Sénat et il faut espérer qu'elle sera considérée par l'Assemblée nationale, soit le Sénat n'aura pas voté cet amendement, est-ce que vous-même et d'autres pourrez agir ? Parce que c'est très grave, c'est vraiment très grave. Une des richesses de la France, c'est son patrimoine, une des richesses économiques de la France, c'est le tourisme. Si on bousille toutes les campagnes françaises et toutes les villes françaises, il faut imaginer que dans n'importe quelle zone, secteur sauvegardé, on peut imaginer que par exemple, dans les secteurs sauvegardés du 7e arrondissement à Paris ou à Versailles, il y aura n'importe quel bâtiment qui ne sera pas protégé, mais qui sera protégé par secteur sauvegardé, pourra se voir revêtu d'une protection très illusoire pour empêcher les déperditions énergétiques. C'est quand même très grave.
Mais oui, écoutez, vous avez raison d'attirer l'attention sur ce sujet, parce qu'il est passé assez inaperçu. Et d'ailleurs, je vous remercie parce que vous m'avez signalé ça, et donc je suis moi-même allé regarder plus près cette affaire-là. Donc c'est effectivement cet article 3 de la loi qui pose un vrai problème. Alors, c'est un article qui n'est pas totalement clair, parce qu'il prévoit une capacité de dérogation, mais ces capacités de dérogation sont assez mal définies.
La dérogation, c'est uniquement immeuble protégé, monument historique, inscrit et classé.
Non, il prévoit une possibilité supplémentaire de dérogation, qui est vue avec l'ABF. Bon. Mais je dois dire que la rédaction est assez curieuse, parce qu'à la fois, c'est dit... Ça permet de déroger aux documents d'urbanisme qui existent, et ça, c'est tout de même extrêmement grave, mais il peut y avoir des dérogations complémentaires. Donc,
dans ce domaine,
ça n'est pas clair.
On est d'accord, dans ce domaine, l'absence de clarté va occasionner des catastrophes.
Oui, voilà, il peut occasionner des catastrophes.
Donc, il occasionnera des catastrophes.
Oui, très certainement. Donc, c'est pour ça qu'il faut reprendre certainement ce texte. Alors, de façon assez incroyable, et dans le fonctionnement du Parlement, vous savez, l'opposition a une durée de parole limitée, finalement. Et il y a eu énormément d'amendements qui ont été déposés. C'est des amendements dits d'obstruction sur l'article 1 du texte de loi. Ce qui fait que l'opposition a épuisé son temps de parole sur l'article 1. Et donc, sur tous les autres articles, il n'y a eu aucune discussion. Donc, Ce sujet que vous évoquez, et qui est grave et important, n'a même pas été évoqué à l'Assemblée nationale.
Ce qui inquiète un peu quand même sur le fonctionnement de l'Assemblée, parfois.
Oui, oui, non, mais je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je vous le raconte, d'ailleurs, parce que c'est à la limite de l'anecdote. On dit, mais c'est comment ça se fait? Pourquoi personne n'a parlé?
Vous ne l'avez pas forcément vu, puisque vous ne l'avez pas vu, à mon avis, peu de gens l'avaient vu.
Personne, mais c'est ça.
Mais rien ne vous empêche, et de toute façon, je compte inviter d'autres hommes politiques à ce micro, et des hommes politiques, bien sûr, de gauche, mais rien n'empêche de vous associer avec des parlementaires de gauche. Il y en a beaucoup qui s'intéressent aussi au patrimoine.
Bien sûr, d'ailleurs, vous avez tout à l'heure cette histoire du loto. Finalement, j'ai été soutenu par le président de la commission.
Patrick Bloch, tout à fait, que j'espère pouvoir inviter ici s'il l'accepte.
Et qui est donc pas les mêmes partis, ne représentant pas le même courant à l'Assemblée. Mais sous la culture, souvent, il y a quelques années, j'ai présidé la Fédération des élus à culture de France. C'est une des plus belles expériences que j'ai eues parce que c'était justement une fédération pluraliste, qui allait de la gauche à la droite. Et donc, vraiment, on voyait bien qu'on était, quand on est passionné de culture, ça va au-delà des étiquettes politiques. Et là, je peux vous dire que sur cette affaire, effectivement, on voit bien l'intérêt d'ailleurs des associations, parce que quand on est parlementaire, finalement, on n'est pas amené à regarder tous les textes de loi. Ce texte de loi, il a été vu par une commission, qui est la commission développement durable, qui est donc une autre commission que celle de la commission culture. Et à la limite, on ne nous aurait pas dit attention à l'article 3, il y a quelque chose qui touche à la culture, on ne l'aurait pas vu. Mais ça, je dois dire que c'est un peu la chance du mode de fonctionnement démocratique. S'il y a toujours quelqu'un qui, à un moment, tire la sonnette d'alarme en disant « venez voir, il y a un truc important », et à ce moment-là, on peut récupérer le texte en deuxième lecture, travailler avec le Sénat, etc., ce que les associations font. Personnellement, dès que je l'ai su, j'ai posé une question à la ministre, une question écrite, qui est une autre procédure, sur ce sujet, en disant, et comment on va faire? Parce que, effectivement, des immeubles qui avec des façades qui sont intéressantes, on ne va pas s'amuser à mettre dessus des isolants et on va faire pourrir, comme vous le disiez tout à l'heure très bien, le bois à l'intérieur. Enfin, ouais, c'est une aberration, c'est clair.
Très bien. Alors, on verra, mais espérons que... Enfin, j'espère que votre action sera... que vous solliciterez également d'autres députés,
oui,
et d'autres sénateurs.
Sûr. Mais j'ai commencé par solliciter la ministre, parce que... voilà, faut commencer.
Mais justement, par exemple, je regrette, alors je ne sais pas si la ministre écoute, en tout cas je sais que certaines personnes de son cabinet doivent nous écouter, il n'est pas normal, je pense, que la ministre de la Culture ne s'exprime pas sur ce sujet, même si elle agit en sous-main, peut-être agit-elle en sous-main, mais pourquoi, j'espère pouvoir l'interviewer bientôt, je n'ai pour le moment pas réussi à interviewer la ministre de la Culture, ça a toujours été assez compliqué, j'espère pouvoir interviewer celle-ci. En tout cas, c'est le genre de choses sur lesquelles la ministre, il n'y a pas besoin de budget, il faut juste qu'elle s'exprime. Donc
oui,
c'est bien qu'elle s'exprime.
Oui, tout à fait, ça, je trouve ça important.
Un mot sur les éoliennes, quelle est votre opinion sur les éoliennes? Alors vous connaissez notre position, oui. Très hostile, à la fois parce que l'utilité réelle des éoliennes n'a pas été complètement démontrée, et deuxièmement parce qu'on voit que c'est un gros facteur de corruption, ça a été écrit par un organisme officiel. Troisièmement, parce que c'est souvent monstrueux pour le patrimoine.
Oui, alors là aussi, vous voyez, récemment, j'ai posé une question parce qu'il y avait un projet d'éolienne à côté Arquesenant. Et je veux dire que là.
J'en ai parlé de ce projet d'éolienne, effectivement.
Ah, bah, vous voyez, bon, c'est typiquement le genre de choses qui est choquant parce qu'il est évident que dans un paysage, j'étais récemment en Grèce et ça me frappait. Voilà, vous avez ces paysages absolument merveilleux qui donnent sur l'eau, puis au-dessus, là, vous voyez ces immenses éoliennes, tout de même. Bon, on peut dire que c'est une sorte de véritable gâchis, quoi. Alors, et ça existe aussi en France. Bon. Les éoliennes ont du sens quand, effectivement, c'est dans ce paysage, certaines éoliennes qui sont dans la mer sont assez élégantes, presque, mais je dois dire qu'effectivement, à côté de monuments historiques, c'est une erreur fondamentale.
Et alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des études d'impact suffisantes? Enfin, ça devrait être simple. À la limite, en admettant que les éoliennes soient efficaces, ce dont je doute personnellement, mais après tout, pourquoi pas? Les éoliennes sont efficaces. Faisons de véritables enquêtes pour savoir où ça va gêner. Là, on a l'impression que c'est un peu n'importe comment. Et d'ailleurs, je crois que c'est une des fédérations contre le patrimoine, une fédération d'associations, contre les éoliennes, d'une fédération d'associations patrimoniales, qui disait qu'il y a pratiquement toutes les installations d'éoliennes font l'objet de recours, font l'objet de... C'est pas normal, c'est quelque chose qui fonctionne pas. Il faudrait tout remettre à plat et se poser la question, je pense.
Oui, non, puis en plus, il y a eu des choses extrêmement choquantes, parce que l'installation d'éoliennes donne lieu à des recettes très significatives aujourd'hui. On a même vu des affaires où des maires...
Beaucoup, c'est ça.
Oui, donc il faut... C'est des choses choquantes. Je crois, alors, ceux qui protègent, semble-t-il, le mieux aujourd'hui des éoliennes, c'est les installations militaires.
Oui.
Parce qu'une grande partie de notre territoire français est protégée grâce aux installations militaires. Non, moi, tout à fait sur la logique que les éoliennes, je n'ai rien contre à partir du moment où elles sont installées dans des lieux qui correspondent en termes esthétiques, d'environnement. Voilà.
Alors, on va conclure sur votre activité de député et sur l'Assemblée nationale. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression, extérieurement, que le Sénat, quelle que soit d'ailleurs la couleur politique du Sénat, on sait qu'il est passé récemment de droite à gauche et puis à droite, là, le Sénat est plus attentif aux questions patrimoniales que l'Assemblée nationale. On a l'impression que certains de vos confrères, je ne donnerai pas de nom pour ne pas vous mettre en porte-à-faux, et même certains de vos confrères, j'en vois certains qui sont du même bord politique que vous, veulent, effectivement, le patrimoine ne les intéresse pas, et tout ce qu'on peut faire pour limiter, par exemple, le pouvoir des ABF, il y a eu beaucoup de choses comme ça, eh bien, on peut le faire.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a une tradition, sans doute, au Sénat, plus intéressée par les questions patrimoniales. C'est indéniable. Moi, je l'ai vécu dans les postes que j'ai pu avoir. Ça tient parfois, d'ailleurs, à des personnalités, tout simplement, qui vraiment s'y intéressent. Au Parlement, enfin, à l'Assemblée nationale, vous avez des passionnés du patrimoine. Mais ils sont moins visibles, c'est exact.
Très bien. Maintenant, monsieur le maire de Versailles, je m'adresse à vous en tant que maire. Sur Versailles, on pourrait faire une émission, deux émissions, trois émissions. Alors, je dois dire qu'il y a d'abord, vous vous intéressez au patrimoine, et il y a des réussites, à mon avis, indéniables à Versailles. Par exemple, l'hôpital Richaud, qui était dans un état absolument dramatique il y a quelques années, vous avez pris le problème en main, et vous avez fait une opération, alors il y a une opération immobilière dessus, pour rentabiliser le tout, qui est plutôt objectivement bien faite, c'est-à-dire que Villemotte a fait des immeubles qui ont remplacé d'autres bâtiments, donc il n'y a pas eu de construction qui se soit rajoutée aux constructions, qui sont plutôt neutres, qui passent assez bien. C'est vrai qu'on peut regretter peut-être qu'on ne soit pas revenu comme au XVIIIe siècle avec la façade sur le... Ces bâtiments sont sur le côté, qu'on puisse le voir de plus loin, mais bon, objectivement, c'est tout à fait... Et donc, le bâtiment va être restauré. Peut-être que vous pourrez nous dire en deux mots, parce que je vais passer à d'autres sujets ensuite, ce que contiendra l'église de la chapelle de l'hôpital. Deuxièmement, sur les étangs Gobert, là aussi, une réussite, vous pourrez peut-être nous en dire un petit mot. D'autres qui, à mon avis, vous pourrez... Vous en dire ce que vous en pensez, mais ça ne m'empêchera pas. J'invite chacun, je mettrai un lien vers une vidéo YouTube qui montrera ce qu'est le quartier des parfums, qui est juste devant le château quasiment, où les bâtiments sont totalement édulcorés, ont été quasiment, on a l'impression qu'ils sont tout neufs. Moi je pense, j'estime que patrimonialement c'est vraiment une catastrophe, mais bon, vous allez peut-être dire le contraire, vous allez certainement dire le contraire. J'inviterai ensuite les internautes à aller voir ou les Versailles à aller voir à Versailles. Et puis, voilà, ça c'est quelques dossiers, donc des dossiers plutôt bien. Et puis après, on terminera cette émission sur le Grand Parc de Versailles. Mais d'abord sur ces éléments.
Et alors, c'est beaucoup de questions. Alors, Richaud, effectivement, c'est une opération assez exceptionnelle. Parce que quand j'ai été élu maire, c'était un dossier extrêmement difficile parce que c'était devenu une ruine. C'est un ancien hôpital royal. Qui est très intéressant d'un point de vue architectural parce que il y a une partie qui a été construite par Dardonnin qui était architecte de Louis XVI avec notamment cette très belle chapelle et puis le reste avait été construit sous Napoléon III mais en s'inspirant de la partie réalisée par Dardonnin et donc ça donne une unité architecturale très intéressante. C'est un immense bâtiment. Et c'est vrai qu'il était complètement squatté. Deux incendies avaient eu lieu. Un troisième a eu lieu même au moment où on était dans l'opération très complexe qu'on a réussi à monter pour faire l'installation actuelle, c'est-à-dire avec des logements, avec aussi, vous l'avez rappelé, des bâtiments neufs. Pourquoi ces bâtiments neufs, réalisés par Jean-Michel Villemotte? C'est qu'en fait, l'opération de restauration du bâtiment historique est terriblement coûteuse. Elle a coûté une fortune. Et donc, le seul moyen d'équilibrer cette opération, ça a été de construire ces bâtiments sur les côtés, parce que eux, évidemment, introduisent une rentabilité dans l'affaire.
Alors, encore une fois, ces bâtiments sont plutôt réussis.
Oui, c'est
pas mal. Surtout, ils ne se substituent pas à des terrains vides. Donc, il y avait des constructions.
Ah oui, il y avait des horreurs. Oui,
il y avait des choses assez moches, d'ailleurs. Donc, c'est plutôt mieux qu'avant.
En revanche, on
en parlera tout à l'heure, mais votre raisonnement, pour restaurer un bâtiment, il faut absolument quelque part qu'il y ait une contrepartie qui rapporte. Je ne suis pas tellement sûr. Il y a aussi le patrimoine, ça coûte de l'argent et ce n'est pas forcément plus mal.
Non,
de
mais
temps
vous
en
avez
temps.
Raison. Mais alors, allons jusqu'au bout de l'histoire. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est que l'État avait acheté, dans les années 90... ce bâtiment à l'hôpital de Versailles pour y faire le palais de justice. Et puis, pendant 10 ans, l'État n'a pas investi dans ce projet et l'État, pour le coup, est un très mauvais conservateur.
On est d'accord.
Et c'était devenu, comme je vous le disais, un squat épouvantable.
Tout à fait, oui.
Et le bâtiment historique était dans un état dramatique.
C'est le ministère de la Justice, il faut le dire, qui s'est comporté extrêmement mal par rapport à cet hôpital.
Oui, enfin, et qu'effectivement, il n'a pas été un bon propriétaire, à tel point qu'à un moment, si vous voulez, la ville a pris l'initiative de le gardienner alors qu'on n'était pas propriétaire, ce qui est d'ailleurs juridiquement un truc un peu fou qu'on a fait, mais c'était tellement énervant à mes yeux, si vous voulez, que ce capital patrimonial au centre de la ville, dans le plus bel endroit de la ville, tombe en ruine, qu'il a fallu agir. Et c'est vrai que je me suis beaucoup investi sur ce dossier pour arriver à trouver une solution. Et on a trouvé une magnifique solution, parce que quelle était l'idée? C'était qu'au lieu d'en faire une sorte d'enclos de promotion immobilière fermé sur lui-même, nous avons récupéré la propriété des 3 jardins, qui deviennent des jardins ouverts, donc tout est traversant. On restaure d'ailleurs, et là tout de même par rapport à ce que votre présentation tout à l'heure, je me permets m'inscrire en faux, parce que historiquement, on voit très bien au contraire l'alignement de la rue. Et on a retrouvé les alignements historiques. Je souhaitais absolument qu'il y ait, si vous voulez, cette traversée des bâtiments, qui sont des bâtiments donc, qui sont présents comme un carré, avec des porches assez majestueux, et qu'on ait cette circulation entre ces 3 cours, qui vont être aménagés de façon intéressante et qui mettent en valeur la très très belle façade de la chapelle qui donne sur le boulevard de la Reine. Et là, elle est majestueuse et sera la grande entrée, si vous voulez, de ce site. Donc non, c'est vraiment une opération d'exception qu'on a réussi à mener vraiment sur le fil du rasoir. Et c'est là d'ailleurs où la mobilisation de la population est importante, parce que c'est vrai qu'il a fallu faire un bras de fer un moment pour obtenir de l'État un prix qui permette enfin d'enclencher un processus de restauration. Et c'est à la suite des 2 incendies, puis, comme je vous le disais, un 3e, qu'il y avait une telle énergie de la population qu'on arrive
pour cette, à... Non, pour cette opération, je n'ai absolument pas de critique.
Alors, celle que vous avez davantage critiquée, alors, la
quartier
cour des senteurs.
Oui, voilà. Cour des senteurs au quartier des senteurs.
Alors, là, si vous voulez, je suis tout à fait d'accord, vous allez mettre sur YouTube. Alors, je vous en supplie, soyons honnêtes. Mettez les photos de ce que l'on a trouvé. Parce que c'est ça le problème. Quand j'ai été élu, c'était une ruine depuis 20 ans. Depuis 20 ans, cet endroit, c'était un endroit absolument épouvantable, plein de rats, etc., à côté du château de Versailles. Et donc, je me suis dit, c'est pas possible, on ne va pas laisser éternellement ce lieu dans cette situation-là. Bon. Et vraiment, mettez les photos, parce que les gens vont se dire, ah bah tout de même, quelle magnifique transformation! Qu'est-ce que l'on a fait? Profitant, si vous voulez, de la réorganisation de l'armée, j'ai demandé à pouvoir racheter un petit bout de terrain qui était derrière cette cour, qui se trouvait donc un immense, là aussi, squat lamentable, visible du château. Racheter ce petit terrain, et donc on a percé sous l'immeuble du fond, qui n'a strictement pas beaucoup d'intérêt, il faut dire, attention, ce n'est pas un patrimoine très intéressant. Le seul bâtiment qui a un intérêt, c'est celui, si vous voulez, qui... Alors, il faut, on va dire, perpendiculaire au château de Versailles, qui a un bel escalier à l'intérieur, qui a été préservé, bien sûr, mais qui n'est tout de même pas exceptionnel. L'immeuble du fond, donc, a été percé en dessous, en fait une traversée, et ça permet, alors là, je vous invite vraiment à aller le voir, ça permet de mettre en valeur un passage que tout le monde ignorait, puisqu'on n'y avait pas accès, c'était dans une propriété militaire, un petit passage absolument charmant qui donne dans un jardin qui a été refait, et qui est un jardin qui a été merveilleusement refait par un paysagiste qui s'appelle Nicolas Gilsoul, et ce jardin donne sur la salle du jeu de paume. Et au fond, quel était l'objectif? C'était de permettre à des gens qui sont en visite au château d'aller vers le quartier historique qui dépérit, le quartier de Saint-Louis, avec notamment la plus vieille rue de Versailles, qui est la rue du Vieux, qui a de très gros problèmes économiques, parce que les magasins, il y a très peu de touristes qui viennent. Et donc, ce n'est pas un projet de rénovation, si vous voulez, d'un bâtiment. La rénovation, vous dites qu'elle est, bon, elle est, je dirais, elle est assez standard. Évidemment, comme on a refait les enduits ou autres, ils ont été refaits avec les indications de l'architecte des bâtiments de France. Honnêtement, je ne trouve pas ça terrifiant, loin de là, je trouve que c'est une rénovation très correcte, traditionnelle. La cour elle-même, elle n'avait strictement plus aucun intérêt. Mettez les photos, vous allez voir.
Le cheminement,
lui, est très intéressant, car il permet de valoriser cette salle du jeu de paume qui était complètement fermée. J'ai obtenu de la présidente du château, Catherine, et je la remercie beaucoup, que la ville finance les gardiens pour permettre l'ouverture de la salle du jeu de paume. Donc au contraire, on a vraiment fait une opération de remise au public d'une partie de notre histoire, qui est celle de la salle du jeu de paume, qui est une belle salle.
Alors, on va passer maintenant à un sujet pour lequel vous aurez beaucoup plus de mal à me convaincre, qui est celui... Alors, on en a beaucoup parlé sur la tribune de l'art. Alors, c'était un PLU, d'abord très discuté. PLU qui a été... il y a eu des recours des associations. Ce qu'il faut savoir, c'est que s'il n'y a pas eu de procès, c'est parce que l'avocat de l'association a laissé passer la date, ce qui est quand même incroyable. Mais bon, ça arrive. C'est des choses qui arrivent, malheureusement. Mais c'est assez incroyable. Ceci dit, je pense que vous aurez, par rapport à ce que vous voulez faire, je pense... peut-être des petits soucis avec les associations, mais résumons. Moi, je résume ce que je comprends, ce que je lis, hein, c'est dans les documents, c'est-à-dire dit dans les articles sur le PLU, c'est deux terrains, principalement. On pourrait parler d'autres choses, parce qu'il y a Mortemay, il y a le terrain des Matelots, où il y a des choses qui se passent. J'ai parlé, je ne vais peut-être pas l'aborder tout de suite aujourd'hui, parce qu'on n'a pas forcément le temps, et c'est de ce qui s'est passé avec le Solar Décathlon. On peut lire également sur la tribune de l'art un article où c'était assez terrifiant, je trouve. Mais bon, vous allez... Vous dites qu'il va se passer, il va y avoir une urbanisation, alors vous l'appelez une urbanisation douce, la ville dans la campagne dans la ville, je ne sais plus, sur les terrains de Pion. Il faut savoir que les terrains de Pion, les plans sont sur la tribune de l'art et on les remettra dans l'émission, dans la page d'émission. Le terrain de Pion est en forme de triangle et le triangle aboutit quasiment à l'extrémité du Grand Canal. Le PLU, à l'époque, le président PLU, il y avait une possibilité de construire 9 mètres. L'armée n'avait construit en baraquement qu'une, enfin même en dur, mais que sur une partie du terrain. Vous avez racheté à l'État, via un montage un peu compliqué, via l'établissement public des Yvelines, vous nous l'expliquerez peut-être, l'ensemble, et il se trouve que maintenant, avec le PLU que vous avez fait voter, c'est plus 9 mètres pour une partie de la construction, c'est 12 mètres. Et que 20% de cela est prévu en pleine terre, ce qui signifie que 80% ne sera pas en pleine terre. En gros, j'en viens à mon point, c'est que vous urbanisez une partie du Grand Parc de Versailles. Alors je sais ce que vous allez me dire, mais j'ai des arguments pour y répondre. Donc reprenez cela et dites-moi par rapport à ça, dites-moi que vous n'urbanisez pas le Grand Parc de Versailles, alors que je pense que vous le faites, et qu'il y a en plus 3 gares qui vont arriver dans le coin.
Non, alors, écoutez, là aussi, je crois qu'il est important d'être bien clair sur ce dossier. Quel est-il ? Le PLU dont vous parlez, la modification, il faut la voir par rapport au PLU précédent.
Exactement, tout à fait, oui.
Non, le PLU précédent ouvrait toutes les possibilités, alors que la réforme du PLU les limite considérablement, sauf sur l'histoire de la hauteur, mais on va en reparler. Le PLU précédent était très inquiétant, parce qu'il permettait de faire notamment un centre commercial, il permettait de faire ce qui est terrifiant dans nos villes, ces entrées de villes où vous avez un peu tout et n'importe quoi, c'est-à-dire ces immenses hangars où vous faites du commerce. Et il y avait un danger majeur, c'est que ce site, il est un site très intéressant, qui appartient, effectivement, qui appartenait à l'armée. Et l'armée, aujourd'hui, elle veut vendre le plus cher possible. Moi, je l'ai dit très clairement, si l'État veut le récupérer pour le château de Versailles, c'est très bien, j'en suis ravi. Faites-en le grand parc du château de Versailles. Ça me plaît tout à fait. Le seul problème, c'est que c'est pas du tout ça qui se passait. C'est que les militaires voulaient le vendre le plus cher possible. Et les militaires étaient prêts à le vendre, la promotion immobilière, sans aucune limite, puisque l'ancien PLU était extrêmement large.
Je me permets de vous interrompre juste une seconde. Dans votre nouveau PLU, c'est vous qui décidez, rien ne vous empêchait de le mettre en zone inconstructible, comme cela aurait dû être le cas. On est dans le grand parc de Versailles, vous pouviez parfaitement... Vous pouvez parfaitement le faire.
Non, parce qu'à ce moment-là, vous devez indemniser la propriété.
Et là, non, vous pouvez le faire avant, c'était l'État, vous pouvez le faire quand c'était l'État, et pas maintenant, une fois que vous le vendez. Honnêtement, tout ça n'est pas...
Non, l'État nous aurait... Mais on n'aurait même pas autorisé. L'État ne nous aurait pas autorisé.
Non, mais là, vous
l'État
parlez de... Mais attendez. Ça aurait été très intéressant de voir l'État attaquer la ville de Versailles pour vouloir passer... le grand parc de Versailles en zone non constructible. Ça aurait été assez difficile. Et vous n'avez pas tenté ça.
Non, c'est pas. Alors,
ça fait partie du grand parc. Ça fait partie du parc historique de Versailles.
Moi, écoutez,
il suffit de regarder sur la carte.
Non, mais il faut être très clair. J'ai sollicité la ministre dessus. J'ai dit, est-ce que vous voulez le racheter ou pas ? Tout de même, l'État, c'est une unité. Ce qui est terrifiant pour nous, aujourd'hui, élus, c'est qu'il faudrait qu'on assume. Tout ce que l'État nous demande de faire et qu'ensuite on se fasse engueuler à la place de l'État.
Le coût, c'est 11 millions d'euros, c'est ça ?
Non, alors, le coût, c'est effectivement 11 millions d'euros, donc 4 millions de dépollution.
Oui.
Si l'État aujourd'hui me dit je le rachète, je dis très
11 millions d'euros, une question. C'est de l'argent que vous ne déboursez pas pour le moment, que vous ne récupérez qu'après que ça soit loti et vendu.
C'est, si vous voulez, comme la ville de Versailles aujourd'hui n'est pas capable de porter seule ce type de projet, c'est porté par l'établissement public foncier des Yvelines, qui fait, si vous voulez, en gros l'avance de trésorerie pour cette opération. Donc aujourd'hui, c'est porté financièrement par l'établissement public des Yvelines au nom de la ville de Versailles. Mais je vous dis, si demain vous arrivez à convaincre la ministre.
Un terrain comme celui-ci, une opération comme celle-ci qui n'est pas encore commencée, on peut l'amortir sur 5. Enfin, vous pouvez répartir les coûts sur 5 ans, par exemple, ça serait pas idiot. Savez-vous combien ça fait par habitant de Versailles 11 millions d'euros. Parce que vous avez l'air de dire que c'est une somme énorme. C'est pas une somme énorme.
Mais attendez, soyons sérieux. Aujourd'hui, vous avez des hangars militaires qui sont dans un état dramatique. Mettez-le aussi sur YouTube.
C'est très facile. On a mis les photos. C'est des choses qui sont très faciles à détruire. Il faut détruire.
C'est une zone. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, si vous voulez, c'est que cette zone, elle est là aussi. Nous payons aujourd'hui des gardiens pour que, et on évite que ça soit le lieu où s'installe.
Détruisez ces bâtiments déjà.
Ils vont être détruits par définition. Ils vont être détruits.
Mais pour les remplacer par des bâtiments qui seront des bâtiments d'habitation, que vous ne pourrez plus jamais détruire. C'est-à-dire que là, on est quand même dans un cas où on a une possibilité de rendre à la nature, j'allais dire, et après éventuellement même... il faut voir quand même que... vous êtes d'accord que cette emprise de pions est complètement imbriquée dans le parc de Versailles.
Elle n'est pas imbriquée, non. Non, puisque vous avez...
Je mettrai la photo. Si, elle est clairement imbriquée.
Non, pas du tout. Non.
Elle est complètement imbriquée dans le...
Elle est pas imbriquée, si vous voulez. Elle jouxte des terrains qui sont des terrains gérés par l'INRA, parce que si vous regardez bien la carte, vous verrez que vous avez le parc du château, Et puis, l'ensemble immobilier de l'INRA, qui est très important, vous avez la lanterne, et ensuite, vous avez Pion. Et entre Pion, l'INRA et la lanterne, vous avez des terrains qui sont aujourd'hui exploités par l'INRA. Donc, on est à la frontière du Grand Parc. Je n'y vois pas du tout l'intérêt. Hein. Je n'ai jamais dit l'inverse, puisque je trouve que ce lieu est très intéressant et que si vous disiez la protection que l'on a mis supplémentaire pour la nature, c'est pour que justement l'aspect jardin demeure très important dans ce projet. Voilà.
Vous me disiez, attendez,
j'ai confié une mission.
Donc là. C'était 127 euros par habitant, 26 euros par an sur 5 ans par habitant, 26 euros par an.
Mais attendez, non,
par habitant, attendez, c'est comme des chiffres qui parlent cela.
Didier, attendez, soyons sérieux. À cet endroit-là, de toutes les façons, ça ne sera jamais la ville qui va gérer ces terrains-là.
Non, mais il y a des propositions. Non, ben, très bien, vous pouvez très bien considérer. Mais vous pouvez... Non, mais attendez. Mais oui, mais attendez, vous êtes maire d'une ville, vous êtes responsable d'un ensemble. Je pense, premièrement, et ça vous m'avez répondu que vous ne pouviez pas, mais je pense toujours que vous auriez pu, vous n'étiez pas obligé de faire passer de 9 mètres, par exemple, à 12 mètres les constructions.
Si, pourquoi on fait ça, si vous voulez? C'est parce que. À côté, vous avez des bâtiments de l'INRA qui sont à 12 mètres. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en faisant ça, vous préservez les éléments végétaux, notamment du côté du château. Comme vous l'avez très bien dit, c'est en triangle. Ce qui est vraiment proche du château, c'est la pointe extrême. Et le reste même est le long de la départementale qui est urbanisée, il faut tout de même le dire. Vous avez de l'autre côté la voie de chemin de fer,
non, mais les bâtiments. Tout à fait, mais là, on rentre une urbanisation dans le Grand Parc, c'est clairement, ça se voit. Si vous regardez la photo, ça se voit.
Moi, si vous voulez, comme je vous l'ai dit et je vous l'ai redit,
mais revenons sur ces 20...
Si l'État considère qu'effectivement, il y a une logique de Grand Parc à protéger, moi, je le dis très bien.
D'accord, mais on sait bien que l'État, je suis le premier à critiquer l'attitude de l'État. Juste une question. Si, je pense que c'est aux communes également de faire ça quand c'est quelque chose d'aussi important que le parc du château de Versailles. Est-ce que vous avez demandé à la nouvelle ministre, je pense pas que la nouvelle ministre soit au courant de cette affaire-là. Est-ce que vous êtes intervenu, peut-être vous êtes prévenu les télévisions en disant voilà le scandale, voilà ce qui se passe.
Mais je vais vous dire mieux que ça pour vous faire rire.
Donc, je doute que je ris à propos, mais bon.
L'État a proposé, et là vous allez voir, et vous allez maintenant me dire, bravo monsieur le maire, vous avez bien fait d'agir. Sachez que l'État a proposé ces terrains dans la liste de Madame Duflot, où il fallait faire 100% de logements sociaux.
Rien ne m'étonne.
Si je n'avais pas pris l'initiative, et croyez-moi que la négociation a été épouvantable, que la ville, justement, dise « je ne veux pas n'importe quoi ». Attention, j'ai pas surtout les... je fais des logements sociaux, c'est très utile. Mais je ne veux pas qu'on fasse des entrepôts, des commerces. Je ne veux pas. Je suis contre les logiques de 100% de logements sociaux. Mais vous avez la démonstration à l'instant, puisque vous pouvez trouver le document dans la liste publiée par l'État.
Je vous crois bien volontiers, mais vous ne pouvez pas tout le temps.
On le donnait gratos à des promoteurs en faisant 100% de logements sociaux.
Je ne vais pas
voilà si je n'étais pas intervenu.
Oui, mais vous pouviez intervenir. Ce que vous faites, voilà. En fait, vous pouviez intervenir. Et c'est facile, parce que je suis désolé, pour la municipalité de Versailles, ça n'est pas énorme au point de vue dépenses. Non, je suis désolé. Vous n'allez pas me faire croire que 26 euros par habitant et par an, si on amortit sur 5 ans, c'est quelque chose de très important. Et ça serait vraiment une très belle opération que vous pourriez faire. Et les associations, vous pouvez encore le faire, bien sûr.
Non, mais alors, regardez où ça se situe. Nous sommes à l'extrémité de la commune de Versailles. Donc, vous avez le parc du château, puis l'INRA, puis la lanterne, puis les terrains agronomiques de l'INRA, et enfin, et là, vous êtes exactement à la frontière de Saint-Cyr. Donc, vous êtes très loin du cœur de la ville de Versailles.
Mais on est en plein dans le Grand Parc de Versailles.
Oui, d'accord, mais nous n'avons pas, nous, ville de Versailles, à assumer le Grand Parc. Enfin,
vous assumez le Grand Parc pour y construire des habitations et des logements. Moi, ça me semble assez scandaleux. Et je rajouterais que ce n'est pas qu'à cet endroit-là. Vous avez également, et là on voit également, Satory, qui faisait également partie du Grand Parc. C'est moins grave parce qu'effectivement, on n'est pas dans la perspective du château. Mais là, c'est largement de la campagne. Et là aussi, vous allez construire des bâtiments. Et il va y avoir trois gares qui forcément vont induire une fréquentation plus importante et une pression urbaine, urbanistique qui sera très compliquée, sur laquelle il sera très compliqué de revenir en arrière.
Satori, alors le terrain de Satori, c'est différent. D'ailleurs, ce n'est pas des propriétés de la ville. Hein. Les terrains de Satori sont des propriétés de l'État.
Mais c'est encore le PLU qui est donc aux...
Ah non, mais le PLU, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi sur un PLU. Il faut faire tout de même dire les choses. Vous ne pouvez pas geler ces terrains quand je vous dis même que l'État proposait de les d'en faire.
Mais si un PLU peut permettre de conserver naturel des zones naturelles, c'est bien tout à fait possible dans un PLU.
Écoutez, je pense que vu le souci qu'a aujourd'hui
une question de volonté.
Et la pression qu'il met pour construire du logement, vous n'imaginez pas. J'ai un sentiment qu'il faut là que les gens assument leurs responsabilités. Ça devient insupportable pour nous, les élus locaux, insupportable, parce que vous avez une pression pour construire du logement aujourd'hui qui est extrême. Nous sommes soumis à la loi du flou avec les 25% de logements sociaux, la multiplication par 5 des sanctions. Tout ceci, il faut le vivre au quotidien. Et dans une ville comme la mienne, on a une tradition de logement social forte, mais on ne prend pas en compte les logements militaires. Or, Versailles est une ville où vous avez des logements militaires qui ont des caractéristiques de logements sociaux extrêmement importants, puisque c'est tout le plateau de Satori. Et si on avait intégré ces logements militaires, on serait nettement au-dessus de 25% de logements sociaux. C'est pour vous dire que toutes ces contraintes, elles s'imposent à nous. Moi, je veux bien entendre dire que c'est le Grand Parc, mais le Grand Parc...
Historiquement, c'est le Grand Parc.
Avouez que le Grand Parc, c'est de la seule responsabilité de l'État, enfin.
Non, mais je ne suis pas certain.
De s'occuper du Grand Parc, d'autant plus...
Non, mais il n'est pas question de s'occuper du Grand Parc. Là, vous en occupez, puisque vous en occupez, du Grand Parc, non. Manifestement. Ah si, puisque vous faites un PLU qui permet de le lotir, et en grande partie, vous allez le lotir.
Mais je vous ai expliqué que si on ne l'avait pas fait, il aurait été...
Non mais si vous l'avez pas fait, vous auriez pu très bien. Vous avez la propriété de ce parc, de cette partie en tout cas Pion. Oublions Satori qui est une affaire plus compliquée, effectivement extérieure, qui est très regrettable je le trouve. Mais concentrons-nous pour le moment sur Pion. Sur Pion, vous avez les moyens actuellement de sauvegarder pour nos enfants, pour vos enfants, pour les miens et pour les générations qui vont venir une partie du parc de Versailles que là vous allez contribuer. Alors, peut-être que ça aurait été pire si l'État l'avait fait, mais vous allez contribuer. Vous savez, moi je me fais toujours, oui, si on ne fait pas ça, ce n'est pas terrible, mais on va faire pire. Non, je pense que là, il y a une responsabilité qui est partagée, que l'État est une responsabilité. Vous lisez sans doute de temps en temps les articles de la Tribune de l'Art. Vous savez que je ne suis pas le dernier à condamner l'État dans tout ce qu'il fait de mal. Et malheureusement, il y a beaucoup de choses que les ministères font de mal. Alors, terminons ça sur une question.
Non, mais
vous avez pu vous expliquer.
Moi j'estime que ce terrain, il faut le voir de près. Parce que tel que vous le présentez, on a l'impression qu'il est dans le Grand Parc. Je demande, les gens passent sur la départementale, voient les bâtiments militaires auxquels sont habitués.
Mais vous démolissez ces bâtiments militaires, vous avez des zones, vous avez des
terres. Dans cette logique-là, vous voyez bien que c'est pas une logique à ce moment de ville, ça c'est une logique de l'État.
Mais on n'est pas dans une ville là, on est dans le Grand Parc encore une fois.
Oui, mais justement, donc vous l'avez dit fort justement, on n'est pas dans une ville. On est dans une logique d'État. Si l'État veut assumer cette responsabilité, il le fait. Mais la ville n'a pas à se substituer. Et évidemment, ça, c'était bien. Et cette partie construite, cette partie qui est proche de la départementale, pour le coup, et tout de même, il faut bien voir que vous avez trois parties dans ce terrain. La partie proche de la départementale, qui est construite avec ses bâtiments, où on peut très bien réaliser des bâtiments qui soient beaucoup plus élégants. Ce qui existe aujourd'hui, c'est très facile à faire. Et n'oubliez pas que je suis ancien président de la Cité de l'Architecture. J'ai une passion pour l'architecture. Et je considère qu'il peut y avoir aujourd'hui des très beaux bâtiments. Et on fait travailler aujourd'hui à Versailles des gens de talent, et j'en suis fier. Donc sur cette première partie, je ne vois pas, si vous voulez, d'objection majeure telle que vous le dites. Ensuite, vous avez la deuxième partie qui est donc au milieu de ce grand triangle, qui est sous la piste d'atterrissage de l'avion de Saint-Cyr. Et donc cette partie est non constructible, quoi qu'il arrive. Et puis vous avez le bout de la pointe qui est étroit et qui est effectivement plus proche de la sortie du parc du château de Versailles. Mais là, le vrai scandale, je vais vous dire, c'est ce bâtiment qui est à la sortie du château, qui est très visible, qu'on appelle le Moulin, qui est un gigantesque bâtiment, qui est propriété d'ailleurs d'une famille, et à l'intérieur qui sert d'entrepôt. Ce bâtiment, on ne voit que lui. Alors là, je suis d'accord pour vous dire qu'il y a quelque chose de totalement anormal. Ça, je suis d'accord pour ça. Mais vous voyez, il faut bien différencier la partie qui est proche à départemental.
80% pour être sud-soudal, 20% pleine terre. 80%, 20% pleine terre, c'est très peu.
Non, mais il y aura beaucoup plus. Parce
que c'est le PLU qui le prévoit, alors.
Vous avez des bandes.
Vous auriez pu prévoir ça.
Le PLU va beaucoup plus loin. Vous avez des bandes de retrait, ce qu'on appelle par rapport à la départementale, par rapport au mur. Donc, en fait, non, vous avez en réalité beaucoup plus que 20%.
C'est ce qui est exactement.
Oui, mais vous avez les retraits aussi. Vous avez les retraits de 15 mètres aussi, etc. Ouais. Donc,
bon, je crois.
Rassurez-vous, s'il y a une chose qu'on peut voir actuellement à Versailles, dans toutes les réalisations qu'on a faites, y compris on a parlé tout à l'heure des étangs Gobet, c'est que j'ai un souci majeur, c'est le mariage de l'urbain et du végétal.
Mais non.
J'ai un souci.
Mais oui, mais vous avez un souci majeur, mais vous ne devriez pas l'avoir, parce que à Versailles, la ville est une ville de pierre, le parc est un parc. Les deux ne se mélangent pas.
Non, je ne suis pas d'accord avec vous. La construction de Versailles, si vous voulez, ce sont des bâtiments de façade de rue et derrière des jardins. Au contraire, Versailles est une ville qui est
derrière des jardins, on ne les voit pas de la rue.
Mais vous avez aussi dans une ville la nécessité, tout à l'heure je vous disais sur l'opération Richaud, le fait d'avoir fait ces jardins est très important. C'est la respiration des villes. Le fait d'avoir sauvé les étangs Gobert. Les étangs Gobert, le projet...
ça c'est un beau projet, c'est quelque chose que vous avez fait qui était bien.
On a sauvé des bassins historiques, et comme ces bassins, il n'y avait plus d'eau, et qu'il y avait une végétation qui a poussé dedans, on en a fait un très bel espace végétal, dans un univers qui est celui de...
Mais une ville est une ville. Et là, ce que vous faites, en fait, c'est que vous construisez une ville dans le parc, alors qu'il faut rappeler que Louis XIV a détruit trois petits villages parce qu'il ne voulait pas que le parc soit un parc. Je crois qu'on va être obligé, malheureusement, je crois que vous avez exprimé votre conviction, j'ai exprimé...
Je n'arrive pas à vous convaincre.
Vous n'arrivez pas à me convaincre, mais... je pense que malheureusement, vous n'arriverez pas à convaincre beaucoup de gens, en particulier les associations. Et je pense qu'on reviendra sur ce sujet parce que je résume ce que vous dites. Ce que vous dites, c'est que l'État n'a pas pris ses responsabilités. L'État aurait pu sauver ce terrain de pion et le transformer et l'inclure au parc de Versailles. La ville de Versailles a fait ce qu'elle pouvait, mais finalement, elle va lotir, mais lotir moins mal que ce qui aurait été fait. Moi, j'en retiens que la ville de Versailles, avec certainement la complicité de l'État, va lotir une partie du grand parc de Versailles. Moi, je trouve ça plus que discutable, plus que scandaleux. Et une question quand même, vous avez dit que c'est toujours pas fait. Vous êtes-vous rapproché de la nouvelle ministre? Est-ce qu'elle est au courant de cela?
Écoutez, je le ferai très volontiers, mais c'est
pas... faites-le, faisons-le.
Mais vous pouvez le faire. Mais je sais très bien, si vous voulez, l'incapacité aujourd'hui de l'État de répondre positivement à ce genre de choses.
Et vous n'avez pas répondu quand même sur les 26 euros par habitant par an. Est-ce que vous trouvez que c'est beaucoup?
Mais non, mais attendez, vous oubliez une chose fondamentale.
Oui.
C'est l'entretien. La ville ne va jamais entretenir
il y a des propositions. Mais très bien. Je suis certain. Attendez, les associations ont une proposition pour. Ça peut très bien être laissé en plein champ et on verra plus tard. Entretenir quoi? Vous laissez ça en plein champ? Très bien. Vous ne l'entretenez pas? Eh bien, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on pourra toujours revenir dessus. Alors qu'aujourd'hui, avec les constructions, on ne pourra plus jamais revenir dessus. C'est un faux problème. 26 euros par an et par personne, c'est très peu.
Ce que je n'arrive pas à comprendre, si vous voulez, c'est que je vous ai démontré le risque réel, puisque vous avez un document administratif qui proposait...
Vous dites qu'il y aurait pu y avoir pire, d'accord? Mais par rapport à ce qui serait possible de faire, eh bien, c'est bien pire que ce qu'on pourrait faire.
Non, mais ce qui est possible de faire, c'est très clair. Si l'État veut que ça soit dans le Grand Parc, il le rachète.
Bon. En tout cas, on transmettra à la ministre de la Culture. Je ne sais pas qui aura le plus convaincu, mais je ne suis pas convaincu, en tout cas.
J'aurais voulu. Sachez que 500 000 euros, c'est un point d'impôt. Donc, vous voyez ce que ça signifie.
Non, on parle de 26 euros par an, c'est 5 sur 5 ans. Je suis désolé, il y a des choses qui sont...
Votre chiffre, pardonnez-moi, il est complètement faux.
Oui, pourquoi?
Dans le budget de la ville de Versailles, 500 000 euros, équivaut à une augmentation d'un point.
Moi, j'ai pris le nombre d'habitants. Alors, c'est une source. C'est pas une source, c'est Wikipédia, c'est peut-être pas bon. 86 000. Mais bien entendu, par habitant, j'ai pas dit par contribuable, par habitant.
Attendez, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Ça veut dire que vous avez 11 millions d'euros, c'est pas énorme. 11 millions, ça fait 22 points d'impôt.
Que vous n'avez pas encore sorti de votre poche, d'ailleurs.
Non, mais c'est 22 points d'impôt. Vous vous rendez compte ce que c'est? Donc, c'est très bien. Moi, je pense que la ville a assumé bien le risque.
22 points d'impôt sur un an.
Eh bien oui, mais attendez. Que ça soit un sur 5 ans.
Ce genre d'opération, ça s'amortit sur plusieurs années, vous savez bien.
Après,
pense que c'est trop important pour qu'on laisse cela. Vous aurez certainement évité peut-être un plus grand malheur. Eh bien, on se rappellera simplement que vous avez loti une partie du Paris de Versailles.
Non, parce que il faut aller sur le lieu et il faut voir qu'aujourd'hui, il est bâti, cet espace.
Mais attendez, bien sûr. Bâti. Non, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'il appartenait au Grand Parc de Versailles. Je dis qu'il est bâti de bâtiments. Mais on les a mises. C'est des bâtiments qui sont faciles, qu'on peut démolir. Et après, là, vous n'aurez plus rien. Une fois que vous aurez fait des habitations, vous ne pourrez plus les démolir. Pourrez plus les démolir.
Reconnaissez une chose. Le propriétaire, c'était l'État. L'État pouvait très bien faire un transfert.
L'État, ce n'est pas vous, j'ai bien compris.
Si vraiment on voulait la logique du Grand Parc, le Grand Parc, il dépend du château de Versailles. Si on voulait faire cette logique-là, l'État disait « je transfère la propriété au ministère de la Culture ». Et puis, ensuite, le ministère de la Culture...
Vous m'avez convaincu depuis le départ, je suis convaincu. Voilà. L'État est également responsable, mais vous ne pouvez pas fuir, à mon avis, les responsabilités qui sont également les vôtres.
Moi, je trouve qu'à partir du moment où la ville, ce n'est pas la mission de la ville de s'occuper du Grand Parc du Château. Ce n'est pas sa mission. À partir du moment où la ville...
Mais vous vous en occupez, puisque vous allez le tirer.
Sur la partie qui est aujourd'hui construite.
Mais construite de bâtiments, on pourrait tourner
longtemps.
Voilà,
on peut parler longtemps.
Nous allons laisser les auditeurs... se faire leur propre opinion. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission et d'être venu en sachant que ça serait un petit peu, disons pas houleux, parce que c'est resté très cordial. Mais malgré tout, je campe sur mes positions. Je crois que vous campez sur les vôtres et je crois que cette affaire n'est pas terminée et qu'il y aura d'autres articles dans la Tribune de l'Art. Monsieur François de Mazières, merci beaucoup d'être venu. Et je redonne rendez-vous la semaine prochaine avec notre invité qui sera, on changera totalement de registre, Jérôme Farigoul, conservateur du musée de la vie romantique. À la semaine prochaine.